On accueille maintenant Vanessa au 39-21. Bonsoir Vanessa.
Bonsoir Olivier.
Merci d'avoir composé le 39-21 pour nous parler de vous.
Oui.
Et de votre histoire. Oui, et de votre histoire, parce que voulez-vous que je vous aide ou vous voulez vous lancer?
Je veux me lancer. Bon, voilà, je voulais vous parler de l'aventure qu'on a vécue avec une petite fille qui s'appelait Marie-Lise et qui était atteinte d'un syndrome polymalformatif rare très lourd, le syndrome charge, et voilà, qui est décédée à 13 mois, le jour de son opération du cœur.
Oui.
Voilà, donc je voulais partager, pouvoir aider tous les parents confrontés à ce type d'épreuve et montrer voilà, que ce n'est pas insurmontable et même si c'est douloureux, voilà, c'est un chemin de croissance et de trésors à découvrir aussi.
Mmh. Vous avez décelé pendant la grossesse que votre enfant souffrait, en tout cas était malade?
Alors en fait, donc on l'a vu à la deuxième échographie, hein, la fameuse la dite de dépistage. Donc on a vu qu'il y avait une malformation du cœur associée à une malformation du rein. Donc ça, c'est un gros choc. Et apparemment, c'était opérable. Donc du coup, c'est vrai qu'on s'est tout de suite focalisé sur cet espoir, voilà, de pouvoir la guérir, la sauver, et lui donner sa chance. Et voilà, mais c'est vrai que après, ça n'a pas été une grossesse facile.
Hein. Oui, je me doute. C'était votre premier enfant?
C'était la quatrième.
La quatrième, d'accord.
Donc le choc était d'autant plus rude, parce que justement, après trois enfants en parfaite santé, on était vraiment avec un peu peut-être une insolence face à la vie. Et du coup, ça a été très... En fait, on avait oublié voilà, qu'en effet, bah, c'est pas... Ça ne peut pas toujours être réussi. Hein, et on a vu que la vie est fragile et qu'on ne peut pas tout maîtriser et que ça nous dépasse.
Alors bien évidemment, en tant que maman, vous portiez cet enfant. Mmh. Du jour où vous avez appris cette nouvelle, je suppose que vous n'étiez plus la même. En quoi vous avez changé? En quoi vous vous êtes adapté à cette situation soit peu qu'on puisse s'adapter à ça, parce que je suppose que c'est quelque chose de très, très dur à accepter.
Oui, alors en fait, c'est vrai que c'est par étapes. Hein. On est passé par toutes les étapes un peu du deuil, qui ont été décrites par Elisabeth Kubler-Ross. Donc au début, c'est vrai qu'il y a le choc, il y a la colère aussi, le pourquoi nous. Heureusement, je me suis vite dit après, pourquoi pas nous? Oui. Aussi, bon, ça n'a pas été immédiat, mais voilà, en réfléchissant, en discutant, et bon, je fais aussi cette chance, je pense, de vraiment vouloir comprendre et ne pas me replier sur moi.
Mm-hmm. Est-ce que cette colère, avec du recul comme ça, elle était saine? Est-ce qu'elle vous a aidé, cette colère? Pourquoi nous? Pourquoi moi? Pourquoi notre enfant? Est-ce qu'elle vous a maintenu quelque part dans un certain éveil, je dirais, ou est-ce qu'elle vous empoisonnait, cette colère? Parce que c'est une question...
Je pense qu'elle était inévitable au début, enfin, ouais. Je pense que c'était universel, se dire pourquoi moi, qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est vrai qu'après, je n'ai pas voulu rentrer dans cette question, enfin, c'est vrai qu'en cheminant, en discutant avec d'autres personnes... Je me suis dit, je ne saurais jamais la réponse, enfin, même sûr. Si j'ai beaucoup cherché, c'est vrai, dans la philosophie ou dans les philosophies des sciences, j'ai essayé de comprendre aussi pourquoi ces foutus gènes avaient muté, pourquoi ça ne se passait pas toujours bien. Et voilà, une fois que j'ai accepté que en fait, ça faisait partie de la vie aussi, bon là c'est au bout d'un long cheminement, mais et que je me suis dit, plutôt que dire pourquoi, comment on va le vivre, qu'est-ce que ça va nous apporter. Et il faut, de toute façon, elle est là et on va tout faire pour l'aimer, essayer de donner une vie la plus légère possible. Et voilà, sinon, je pense que je me serais emprisonnée dans cette colère et je ne sais pas jusqu'où je serais allée.
Oui, parce que comme vous le disiez, cette question, pourquoi moi, pourquoi nous, elle est inévitable. Et en même temps... Il n'y a pas de réponse à tout ça. Au bout du compte, on s'aperçoit que, enfin sans doute vous êtes aperçu que vous posiez beaucoup, beaucoup trop de questions autour de raisons pour lesquelles cet enfant était comme ça. Et,
oui, on analyse tout. Je me disais, mais qu'est-ce que j'ai pu prendre comme médicament? On avait fait des travaux. Est-ce que mon mari était en contact de peinture, enfin de dissolvant, je ne sais pas quoi. Enfin, et puis c'est les médecins, hein, ou même un généticien avec qui on a beaucoup parlé, qui nous a dit, en fait, on ne sait pas, et c'est très mystérieux. C'est même très difficile de faire muter un gène aujourd'hui de façon expérimentale. Et puis, voilà, aujourd'hui, c'est vrai que ça fait 8 ans maintenant, donc j'ai trouvé beaucoup de réponses qui m'ont apaisée. Mais aussi Canguilhem, notamment, qui dit que, en fait, le handicap n'est pas pathologique en soi, c'est juste par rapport à une norme, et que ces mutations, elles font partie de la vie. Donc, bon, tout ça, c'est un cheminement, mais aujourd'hui, enfin, je suis plutôt en paix, j'ai compris, ben voilà, le handicap, d'ailleurs, on le voit, fait partie de la vie, comme malheureusement la maladie. Bon, après, c'est aussi des questions, pourquoi la souffrance en ce monde, pourquoi le mal, enfin, c'est vrai que ça m'a. On est très très loin avec cette petite fille. Elle nous a fait énormément progresser. Voilà, toutes ces questions, c'est essentiel.
Oui, ça vous a ramené à cette pensée que, en fait, on était tous pareils, hein, devant la maladie, devant l'adversité, en fait.
Oui, ça m'a vraiment. C'est vrai qu'on a perdu une insouciance, mais ça nous a aussi rendu. Accepter notre vulnérabilité, on a tous des handicaps plus ou moins cachés, plus ou moins apparents et légers ou plus lourds, et que bah voilà, ça peut, on peut avoir un accident de main ou même par rapport à la vie. Enfin, la vie est comptée pour partir. Et c'est vrai que maintenant je savoure, mais d'autant plus la vie, la santé, enfin c'est, ou quand je vois même un enfant, c'est vrai qu'elle déglutissait pas bien, elle pouvait pas voir son biberon et autres. Quand je vois un enfant qui aujourd'hui voit son biberon, je suis encore émerveillée. Je sais les milliards de connexions qui se passent au niveau du cerveau, les synapses et tout, pour le mécanisme pour déglutir. Donc ça nous a ouvert sur la découverte de la prodégalité de la vie. Et c'est vrai que c'est des mécanismes complexes et magnifiques. Enfin, moi, je n'étais pas du tout scientifique. Je me suis ouverte du coup pour essayer de comprendre plein de choses sur le fonctionnement du corps humain.
Revenons à cette grossesse, Vanessa. Vous la vivez comment, alors, cette grossesse, à l'époque?
Beaucoup de larmes, beaucoup de questions. Du coup, c'est vrai que par moments, je passais par différentes émotions. J'ai eu le remords au début. Bah, pourquoi on en a eu mis en route un quatrième enfant? On en avait déjà trois. On était déjà bien occupés aussi, donc on n'aurait pas dû. Après, j'ai vu aussi que ça ne servira à rien. Voilà, maintenant, on a fait le choix, on continue. Donc la colère, j'en ai parlé. La culpabilité, voilà, je n'aurais pas dû vouloir un autre enfant. Peut-être que ce n'était pas pour moi ou que je ne le méritais pas. Et aussi, ce qui m'a beaucoup étonnée, parce que je suis hyper maternelle, enfin, j'adore les enfants, un sentiment de rejet, et même par rapport à ce bébé qui... Enfin, je veux dire, qui me faisait peur et même horreur. Quoi. Je disais, mais je lui en voulais au début de me faire tant souffrir. Et donc là, j'en ai parlé à une sage-femme qui m'a accompagnée, qui m'a permis de comprendre que ce n'était pas le bébé dont j'avais horreur, c'était la maladie, la souffrance que je craignais, et qui m'a permis de restaurer ce lien d'amour avec ce bébé, de lui demander pardon et puis de lui dire, mais tu n'y peux rien, tu es là. Et il explique aussi pourquoi sa maman ressentait, on sait que les enfants ressentent tout aujourd'hui, dans le ventre de leur maman, pourquoi j'avais cette colère, ce chagrin, et que ce n'était pas sa faute, le pauvre petit chou.
Bien sûr. Vous évoquiez avec Natacha en antenne le discours culpabilisateur de certains médecins du corps médical.
Oui.
Que s'est-il passé exactement?
Oui, c'est vrai, ça aussi fait partie du choc. Non seulement, bon, évidemment, on a la mauvaise nouvelle de voir que notre enfant donc, a ses malformations et peut-être donc, ils ont suspecté, à juste titre, un polyhandicap. Au début, ils ont parlé d'une autre maladie, le syndrome du Georges. Bon, finalement, ce n'était pas du tout ça, c'était un autre. Et au lieu de nous dire, enfin, on attendait, mes pauvres, on va être là pour vous aider, vous accompagner. Enfin, c'était tout de suite, parce que nous, on s'est dit, est-ce qu'on peut l'opérer? Est-ce que c'est curable, ce qu'elle avait au cœur? Quelle opération existe? Et eux, c'était, vous savez, ça va être super lourd, ça va être un cauchemar votre vie, pour vous, votre couple, votre famille. Et on était atterrés, on n'avait pas besoin de ça. On voulait un peu de réconfort et c'était nous mettre la tête sous l'eau, quoi. Et donc un discours très noir, très pessimiste, peut-être aussi réaliste. Hein. C'est vrai que le médecin, bon, bah, ils savent ce dont il parlait. Nous, on sortait un peu notre monde des bisounours. Ouais. Donc on ne voyait pas tout ce que ça pouvait recouvrir. Mais j'ai trouvé ça très violent et déplacé, quoi. Il aurait pu accueillir notre peine et dire qu'ils étaient là aussi. Quand on voit aussi aujourd'hui les progrès de la médecine, tout ce qu'on peut faire, c'était sans espérance. Et alors, c'était une impasse et il fallait tout arrêter. Et moi, je me sentais vraiment dépossédée de mon enfant, quoi. C'était un embryon, un problème et on voulait me l'enlever et c'était très, très dur pour moi.
Et en fait, on n'a pas envie d'entendre qu'il n'y a pas d'espoir lorsqu'on vit ce type de situation, je suppose. On va continuer à parler de votre grossesse et puis de la préparation de cet accouchement. On se retrouve dans quelques instants, d'accord ?
Oui.
À tout de suite.
La libre antenne d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits.
Vous pouvez composer le 3921. Florian et Natacha attendre vos appels, le 3921, comme Vanessa l'a composé ce soir, pour nous parler d'elle, de cette grossesse, de cet enfant dont la vie devient fragile. Ce corps médical, il vous dit vraiment qu'il n'y a aucun espoir, Vanessa, lorsque vous êtes, il ne vous laisse aucun espoir?
Non, au contraire, justement, il y a déjà, c'était juste une suspicion d'une maladie, mais il savait rien.
Oui.
C'est vrai que moi, il y avait une malformation du rein, mais moi, j'ai une amie qui n'a qu'un rein. Donc, je m'étais dit, on peut vivre avec un seul rein. Et après, par rapport à la cardiopathie, donc c'était un ventricule à double issue. Enfin, bon, c'est des termes techniques, mais bon, c'est opérable. Hein, c'est des choses qui sont connues aujourd'hui. La chirurgie du cœur a d'ailleurs fait énormément de progrès. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un risque de morbidité avec l'opération, si ça se passe pas bien ou pas. Donc c'est vrai qu'ils étaient surtout eux à regarder le risque qu'à voir aussi que ça aurait pu très bien se passer aussi.
Oui.
Donc,
vous vous êtes rapproché de d'autres femmes? Vous aviez dans votre entourage des personnes qui vous accompagnaient ou est-ce que vous avez ressenti le besoin de partager ce que vous viviez avec, je ne sais pas, d'autres mamans ou d'autres femmes qui avaient pu vivre ce type d'expérience?
Oui, voilà ce que je disais, je n'ai pas voulu rester seule, donc je suis allée beaucoup sur Internet, j'ai lu des témoignages qui m'ont vraiment beaucoup touchée, de personnes à qui on avait prédit des maladies pour leurs enfants, et finalement, ils allaient très bien. Donc c'est vrai que je m'accrochais aussi à ce que j'espérais, hein. Mais bon, c'est aussi fréquent. Et puis des mamans qui avaient perdu des bébés de cardiopathie ou de maladie, et qui m'ont aidée à me dire justement de profiter pendant ma grossesse. Là, elle était là, présente en moi, de beaucoup lui parler, de la rassurer. Et puis la sage-femme, le corps médical, nous ont aidé à préparer, nous proposer au début de visiter le service de néonatologie. Ça, j'ai pas osé. Moi, j'étais trop pétrifiée, donc j'ai pas voulu. Et puis, j'ai fait la sophrologie aussi. Je me suis, pour gérer mon stress. J'ai fait la visualisation positive pour préparer l'accouchement. Ça m'a beaucoup aidée. J'ai eu la chance avec mon mari aussi, qui m'a beaucoup soutenue. Hein, on était tous les deux. Du coup, il y a un réseau d'amis aussi qui s'est mis autour de nous, très fort, une grande solidarité, pour nous soulager, prendre les enfants un peu.
Les petits,
donc on n'était pas seuls, quoi.
Vos enfants, en fait, Vous avez partagé ça avec eux ou vous les avez tenus Est-ce que votre volonté, c'était de les préserver de ça ou c'était important pour vous qu'ils sachent?
Oui, on a voulu vraiment être en vérité. De toute façon, ils voyaient bien nos têtes,
ouais.
nos larmes. Donc, puis les enfants, ça sent tout. À l'époque, c'était petit. Hein, ils avaient 6, 4 et 2. On leur a dit simplement, avec des mots d'enfant, on les a bien rassurés pour dire que c'était pas responsable s'il y avait ça. Ou si même, parce que les aînés, ils peuvent être sur une rivalité avec le bébé qui arrive après. Ils se sentent irresponsables si le frère ou sœur est malade. Donc les psychologues m'avaient bien aidé aussi.
Oui.
Et donc je leur avais dit que ce n'était pas leur faute et que voilà, le bébé avait un problème au cœur. Et que là, il était bien chaud dans mon ventre. Là, il ne craignait rien normalement. Et qu'on ferait tout pour bien s'en occuper. Et que voilà, et qu'on reste très fort aussi pour eux.
Oui.
C'est ce qui nous a aussi obligés à tenir. Pour rester, pour nous occuper d'eux et garder la joie dans notre famille et que la vie continue. Et c'est ce que je me suis toujours dit, quoi qu'il arrive, malgré cette peur au ventre, je serai toujours la Vanessa qui respire, qui vit, qui peut lire un livre, aller au cinéma, parler avec des amis. Et ça, je veux que personne ne me l'enlève. Quoi.
Mmh. Et ce bébé, il était là en plus. Comme vous dites, il était protégé, il était... au chaud dans votre ventre donc, et puis il grandissait l'accouchement est-ce que vous appréhendiez cet accouchement comment est-ce que vous l'appréhendiez cet accouchement est-ce que ça allait être une délivrance quelque part ou comment est-ce que vous l'appréhendiez
en effet donc c'était ambigu ambivalent
ouais.
À la fois il y avait cette angoisse hein. Oh là là, qu'est-ce que comment il est ce petit comment ça va se passer Ils suspectaient aussi un mec de lièvre, ils n'avaient pas réussi à voir. Donc, du coup, je focalisais sur ce truc. J'avais peur, du coup, de ne pas aimer son visage et tout. Heureusement, j'avais été voir aussi des amis qui avaient un petit enfant avec de lièvre, qui avaient montré des photos et tout. Enfin, il était tout mignon, quoi. Donc, ça m'avait un peu rassurée. Et puis, il y avait aussi quand même le soulagement, parce que ça t'attend, à un moment, on n'en peut plus, quoi. Il faut savoir, il faut que l'attente cesse. Donc voilà, il y avait les deux, la peur et l'envie. Et puis, comme tout ce qu'on a vécu après, pendant cette aventure-là de 13 mois avec elle, plus la grossesse, en fait, les choses se font, on a la force. Quand j'ai senti les contractions, j'y suis allée. J'étais même plutôt, on a même rigolé avec mon mari en attendant. Ben, voilà, on était présents, on était... on voit quand même la puissance du psychisme. Hein, j'étais tellement... peur que l'accouchement a été très long, enfin, mon col ne se dilatait pas, alors généralement j'accouche très vite. Donc bon, mais finalement voilà, j'ai réussi et j'avais bien préparé aussi, je savais que du coup on me la retirait tout de suite à la naissance pour bien vérifier qu'elle fonctionnait, qu'elle respirait bien.
Oui.
Là, j'avais très très peur, donc je lui avais expliqué aussi dans le ventre qu'elle serait séparée tout de suite, qu'on lui frappait des piqûres, des trucs et que là j'avais lu un livre de Bernadette Lemoine justement qui explique les certaines angoisses de séparation des enfants dues à des enfants qui ont été hospitalisés ou retirés tôt de leur maman à la naissance. Donc du coup, j'ai bien tout expliqué. Et voilà, ça s'est fait. Et même après, revenir dans ma chambre avec sans berceau, j'appréhendais beaucoup. Et finalement, j'étais en paix, je savais qu'elle était bien surveillée. Les parents sont vite arrivés. Voilà, après, il y a toujours des petites choses dans la vie qui vont s'accrocher et c'est jamais tout noir à 100%.
Mmh. Je pense à toutes les mamans qui vous écoutent et qui sont enceintes ce soir. C'est vrai que on s'imagine toujours plein de choses. Hein. Je pense quand on est enceinte, on lit des choses. Et puis alors si une nouvelle telle que celle-ci, une nouvelle bien évidemment qui est assez sombre arrive, on peut sombrer dans n'importe quoi et se projeter et projeter l'image de ce bébé. Pour celles qui nous écoutent, quel conseil vous leur donneriez, vous qui avez vécu, bien évidemment, je crois qu'il n'y a pas plus dur que perdre un enfant, mais lors de cette grossesse, puisque nous sommes nous sommes arrêtés sur ce temps-là. Tout ce que vous avez fait pour aller mieux à ce moment-là, pour vous raccrocher à la vie et vous reconnecter avec votre bébé.
Bien, surtout, voilà, essayer de visualiser. Pas forcément, moi, j'avais du mal à voir d'autres bébés, d'autres mamans, justement. Alors, tout petit poupon là, en pleine santé et tout, c'était très dur.
Oui.
Mais sinon, j'ai repris la bonne photo, mes autres enfants, parce qu'ils ont tous la même bouille à la naissance. Donc, de regarder ces visages, ces photos des premiers moments. Et voilà, ça m'aidait à ne plus voir le bébé tout bleu. Parce que l'échographiste m'avait parlé de la maladie bleue. Enfin, du coup, s'ils sont un peu sous-oxygénés, ils sont pas lourds. Mais en fait, ils sont pas du tout bleus. Enfin, je l'ai vu après qu'elle avait sa petite boule toute rose, toute mignonne. Mais c'est vrai, on en a parlé après avec les médecins. Le choix des mots, c'est qu'ils fassent attention aussi. Parce que c'est très, très violent pour nous de dire maladie bleue ou je sais pas quoi, des termes techniques. Ça, en effet, donc j'essaie toujours de me réapproprier. C'est un petit bébé, de voir des photos de petit bébé et pas m'échapper de ces descriptions un peu techniques ou médicales qui font peur et qui font oublier que c'est un petit bébé.
Oui. Mmh. On va voir dans quelques instants bien, les premiers moments partagés avec ce bébé et comment vous avez, vous avez dessiné le tableau de votre vie et la venue de ce quatrième enfant dans votre famille. Et on va dérouler ce qui s'est passé. Ensuite, on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite, Vanessa. Et nous sommes toujours avec Vanessa. Vanessa, vous nous expliquez que cette petite fille dont vous aviez pu imaginer qu'elle pouvait être bleue, c'est ce que je retiens en fait. Finalement, cette petite fille, elle était toute rose, toute belle. Ça s'est fait comment, la connexion ? Est-ce que vous avez eu l'impression que la nature reprenait son droit et que finalement, ce bébé, vous l'accueillez comme vos trois premiers enfants ?
Oui, c'est vrai que le démarrage, c'est vrai que ça a été difficile, parce qu'en effet, je ne l'ai pas eu du tout avec moi. Ils l'ont prise, comme je dis. Bon, c'était pour la surveiller.
Ouais.
Donc après, les premiers contacts ont malheureusement auguré un peu la suite. Donc elle est née le matin à 8h, c'est quand je l'ai retrouvée que vers 17h. En plus, pour faire une radio... en plein milieu, donc dans son couffin là, d'un couloir d'hôpital, alors qu'elle était pas fragile, il fallait pas des microbes, enfin bon, il y a des choses encore, j'ai pas tout compris. J'aurais peut-être pu attendre de faire la radio. Et voilà, donc elle était donc avec ses petits fils, donc du coup avec les scopes et tout pour surveiller sa respiration. Elle respirait très bien, elle gérait très très bien. Et donc là, j'ai découvert le mode de relation que j'aurais beaucoup avec elle. Il fallait attendre, demander au médecin, du coup aux puéricultrices de la sortir de sa couveuse, de gérer les tissus et tout, pour la prendre dans les bras. Donc ça, c'était aussi très difficile. Mais après, c'est vrai, une fois qu'elle est dans les bras, là, le temps s'arrête. Les heures passent et là, c'est voilà, la contemplation, lui parler. Je l'ai beaucoup massé aussi, faire du peau à peau, enfin, tout ce qui aujourd'hui est connu hein, en termes de néonatalité. Donc voilà, et c'est vrai que j'ai essayé l'allaiter aussi, même s'il ne fallait pas trop la fatiguer au début. Donc c'était voilà, très progressif, sous le contrôle toujours des médecins, des infirmiers, ça c'était un peu dur. Mais bon, c'était accepter que c'était pour la protéger, et c'était le prix à payer, quoi, pour lui donner toutes ses chances.
Elle est arrivée au bout de combien de temps à la maison, alors ?
En fait, ça a été un peu long. Il y a eu 3 semaines de surveillance. Normalement, donc, au bout de quelques heures ou jours, il y a un canal artériel qui doit se refermer. Et elle, dans son cas, donc miracle, il ne s'est pas refermé. Mais du coup, ça permettait qu'elle respire bien et tout, et d'éviter une opération éventuelle qu'ils avaient envisagée. Donc là, on a vu aussi ce miracle de la vie qui trouve en elle-même les ressources ou les organes qui arrivent à s'adapter, un peu ce qu'avait vu Darwin aussi, ou par rapport aux espèces qui évoluent. Donc là, bah, ce canal qui lui a permis d'éviter une première opération. Et voilà, je sais ce que je disais.
Non, donc elle est arrivée à la maison au bout de combien de temps, en fait?
Oui, donc au bout de 6 semaines. En fait, elle devait rentrer au bout
six
de 3 semaines.
D'accord.
Et en fait, bon, elle a une gastro-entérite. Donc, du coup, on a repris 3 semaines. Donc, 6 semaines. Et après, donc, elle est rentrée en HAD, donc hospitalisation domicile pour un suivi. Donc, voilà, là, pareil, c'était pas la vie avec un bébé normal. On peut sortir comme on veut, faire ce qu'on veut. Enfin, du coup, voilà, fallait que ça dure au moins, je sais pas, 2 mois. Les puéricultrices viennent tous les matins, vérifier son poids. Elle avait un petit scope pour surveiller sa respiration et autres toute la journée et la nuit. Et là, ça, je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi à dormir alors qu'on avait cette petite machine. Et voilà, enfin, de toute façon, on était fatigués. Et puis, ça s'intégrait à notre vie. Et petit à petit, on a trouvé un rythme, hein, avec un enfant fragile à surveiller. Et elle avait beaucoup, après, de consultations à l'hôpital pour tout vérifier. Petit à petit, on a eu l'annonce de différents soucis, donc plusieurs chocs aussi successifs. Et c'était un peu aussi sa deuxième maison, quoi, à l'hôpital.
Et l'annonce de ces nouvelles concernant sa santé mettait ce bébé comment, dans quelle situation? Est-ce que elle était en danger? Racontez-moi, en fait, on vous met au courant de quoi exactement, que tout, il y a pas mal de ces sens qui sont atteints.
Oui, alors ça, en fait, nous, on voyait rien.
Oui.
On se souvenait rien du tout. Il y a même des choses, mais je savais même pas que ça existait. Donc là, est-ce que c'était du déni, la naïveté ou l'optimisme, c'était un peu tout cela.
Oui, c'est un peu d'amour, non? Un peu d'amour.
Oui, et puis comme les parents, de toute façon, les parents, leur bébé, c'est le plus beau.
Oui, bien sûr.
Et puis, au début, un petit bébé, ça dort tout le temps. C'est, donc, après, au fil des mois, plus ça avançait, plus on a vu qu'elle était en effet, qu'elle était très calme, qu'elle pleurait jamais, qu'elle était un peu hypotonique, qu'elle n'arrivait pas bien à lever sa tête. Donc ça, on l'a vu au fur et à mesure. Mais les premières semaines, les premiers mois, on ne voit rien, quoi. Elle n'était pas bien, mais bon, souvent les enfants qui ont une cardiopathie, ils sont fatigués, ils n'étaient pas bien. Donc les médecins qui ont plus l'œil ont dû voir des choses. Donc ils nous l'ont dit petit à petit, donc ils avaient le mauvais rôle. À chaque fois qu'on les voyait, après on ne voulait plus les voir et nous disaient peut-être qu'elle ne voit pas bien, peut-être qu'elle n'entend pas bien, peut-être que... Moi j'avais l'impression, une fois elle avait sursauté quand un truc était tombé, donc elle entendait. Que quand on arrivait à l'hôpital, elle ouvrait les yeux, Enfin, voilà. Donc, et en même temps, les médecins ne savaient pas trop. Donc, il y avait aussi de leur côté grande prudence, peut-être aussi une délicatesse, pas trop nous dire, mais ils tâtonnaient aussi. En tout cas, on ne voyait rien.
Et les frères et sœurs, alors, comment accueillent-ils ce bébé? Parce que les enfants mettent de la magie souvent dans tout, et notamment dans ce type de situation. Je pressens, hein, comme ça, je sens que les enfants aident les parents à affronter les situations. Qu'en a été-t-il pour vous?
C'est vrai qu'ils voyaient tout positif. Hein. Ils nous ont beaucoup aidés. On a essayé de rentrer dans le regard d'enfant. Par exemple, premier contact, ils ne pouvaient pas à cause des microbes et autres au début. Donc, ils l'ont vu à travers une vitre. Donc nous, on s'est dit, oh là là, comment elle a ses petits filles, etc., pour surveiller sa saturation et tout. Est-ce que ça va les impressionner? Et en fait, il y a une qui a dit, elle a son petit choupi, oh, elle a un arbre, elle a un joli drap à fleurs. Il ne voyait pas du tout. Ou la petite sonde nasogastrique. Et voilà, il voyait des petits détails et c'était vraiment attendrissant. Et ils étaient très fiers d'avoir une petite sœur fragile. Et ils ont dit, on va bien s'en occuper. Donc, c'était vraiment... ils ne voyaient pas. Ils ne voyaient pas de problème.
Est-ce qu'on suit un peu l'exemple de ces enfants, là, à ce moment-là?
On se met à leur école. Hein. Ouais. En effet, on va essayer de ne pas penser. Et puis, les enfants, c'est ce que j'ai aussi beaucoup, ce qu'on a appris, ce qu'ils nous ont vraiment apporté. Vivre dans le présent. Et les enfants, ils sont dans le présent. Ils ne vont pas imaginer le futur et tout. Et c'est vrai aussi pour tenir sur la durée, vu qu'on ne savait pas du tout, on a su qu'au bout de 8 mois ce qu'elle avait, comment se passerait après l'opération du cœur et tout, enfin, plein de choses. Je me suis dit, allez, non, aujourd'hui, elle est là, il y a ces petits progrès, il y a ces sourires, il y a ce bon moment, et je ne me concentre que sur aujourd'hui. Et je crois que c'est ça la clé, même du bonheur en général.
Ouais.
Et pour avancer dans l'épreuve, quoi, demain et demain.
Juste pour et, aujourd'hui.
Oui, voilà. Mmh. Et on a la force sur le moment.
Oui, oui, oui.
Par an,
oui.
En anticipation.
Oui. Et puis il y a quelque chose de l'ordre de... Chez nous, de l'instinct de survie vis-à-vis de cet enfant, on s'interdit de plier, hein, et de renoncer. Je ne sais pas si vous avez été traversé par ce sentiment, presque parfois de dire, mais non, finalement, de cette insouciance. Hein, l'insouciance des enfants arrive à nous gagner. Finalement, ça va aller, ça va aller. Est-ce que vous vous disiez,
oui,
ça?
Oui, on s'accroche, il faut. C'est, ouais, la foi et l'espérance. Et puis, c'est vrai que l'amour parental, ce que je dis, l'amour, on a des ressources insoupçonnées. Enfin, moi, je suis hyper sensible, hyper anxieuse, j'aime pas avoir de goutte de sang. Et avec des enfants malades, on vient un peu, on est obligé de devenir infirmier. Moi, j'ai dû apprendre l'aspiration trachéale et tout. Enfin, j'ai réussi à le faire, quoi. De toute façon, j'avais pas le choix. Après, elle a dû avoir, comme je disais, c'est pas bien, elle avait des fausses croûtes, elle a dû avoir une gastrostomie, donc j'ai dû brancher les tubulures. Enfin, et on a une énergie, on a une force, et on ferait tout pour notre enfant. C'est vrai que c'est déplacer des montagnes, et ça, c'est vachement beau. Et c'est, on voit que la souffrance n'a pas le dernier mot. Elle a un maître qui la dépasse, et c'est l'amour, quoi. Mmh. L'amour qui dépasse tout.
Vous dites... Je ne me suis pas recroquevillé sur moi-même, et petit à petit, je me suis laissé transformer par ma fille. Expliquez-moi comment.
Me forcer, voilà, à sortir de ma tristesse et aller vers la vie, aller vers les autres aussi. Donc, je suis allée vers. Après, donc, on a identifié son syndrome. Hein. Enfin, on charge, parce qu'on avait prélevé, on n'avait pas voulu faire une synthèse, donc on a prélevé à la naissance une goutte de sang du cordon ombilical, donc du coup, le fait qu'il y a le temps que l'analyse soit faite, donc ils ont vu que ce n'était pas du tout le syndrome qui avait été suspecté, mais un autre, et donc du coup, voilà, c'est, cette maladie, il y a une association de parents, donc du coup, j'ai contacté l'association charge, et c'est vrai que j'ai eu des magnifiques rencontres, des personnes, c'était forcément très très fort, on vivait la même chose, et voilà, donc c'est vraiment d'aller vers les autres, de s'ouvrir, d'appeler des personnes qui avaient des enfants handicapés, d'échanger. C'est vrai que ça m'a propulsée dans le monde du handicap, que je connaissais pas, et puis j'avais pas envie d'y aller, et même la maladie, et aujourd'hui, c'est vrai que ça m'a transformée. Enfin, maintenant, je suis hyper à l'aise. Je vois les enfants handicapés, tout de suite, je suis allée vers eux, je vais leur parler, alors qu'avant... Oh et ça, c'est vraiment, voilà, ce qu'elle nous a apporté.
Lorsque je vous écoute, je pense à toutes les histoires que j'ai entendues, toutes différentes les unes des autres. Et je dis souvent que... Si on nous parlait de l'épreuve que nous allons subir, traverser, jamais on ne pourrait penser qu'on va la traverser, cette épreuve. Et pourtant, cette épreuve, elle nous montre combien on a en nous quelque chose qu'on ignore. Hein, mais cet instinct de vie, cette énergie qui nous permet d'un seul coup de développer... Je ne sais pas, alors, est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est mêlé au sens, à nos sens? Mais comme vous le dites de manière si belle, qui nous propulse dans la vie encore plus. On va marquer une légère pause et puis on se retrouve dans quelques instants. Vanessa, on va continuer à évoquer justement cette propulsion dans la vie que Marie-Lise vous a permis de faire, d'opérer. À tout de suite.
Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
La libre antenne continue. Vous continuez aussi à nous envoyer vos messages au 739-21, suivi du mot nuit, en lettres majuscules et suivi d'un espace. Alors j'ai le message de Pierre. Je devais vous le lire à vous tous qui nous écoutez, parce que Pierre nous dit lorsque j'écoute l'histoire de Vanessa, lorsque j'écoute toutes les personnes qui viennent témoigner, j'ai l'impression que moi, mon histoire, en fait, je ne trouve pas l'amour, et à côté de toutes ces histoires-là, elle n'a aucune importance, mon histoire, et je n'ose pas vous appeler. Eh bien, Pierre, en fait, vous pouvez aussi nous appeler pour vous raconter, pour nous raconter voilà, ce manque d'amour, vos difficultés à trouver l'âme sœur, parce que cette libre antenne, elle est pour toutes et pour tous, et que chacun, à nos niveaux, nous vivons des épreuves, petites et grandes, et que cette libre antenne, elle est faite pour tout le monde, pour les petites histoires, pour les grandes, pour les moyennes. Alors n'hésitez pas à composer le 3921 si vous avez envie d'échanger, de partager. Et Pierre, je vous encourage vivement à parler à Natacha ou à Florian, et puis nous pourrons échanger sur ce que vous qualifiez de petite histoire, qui n'en est sûrement pas une, qui est votre histoire. Vanessa, Marylis vous propulse dans la vie, elle vous propulse dans ce monde associatif, dans le monde du handicap, alors que vous n'aviez jamais imaginé sûrement connaître ce monde. Vous semblez y avoir découvert encore de la lumière, encore des richesses insoupçonnées. Quelle femme vous êtes devenue au fur et à mesure que vous viviez ces semaines, que vous traversiez ces semaines avec Marylis? Alors je sais qu'elle est un peu, elle est un peu compliquée. Est-ce que vous êtes devenue cette maman de moins en moins anxieuse et à travers justement tout ce que vous traversiez, tout ce que vous rencontriez, hein, tous ces enfants handicapés, tous ces parents dont la vie est chamboulé, mais qui petit à petit s'adaptent et puis se sont adaptés à ces vies, aux vies de leurs enfants. Est-ce que vous avez dédramatisé les choses? Est-ce qu'on relativise en fait tout un tas de choses lorsque le petit bout à côté là nous donne du courage, parce que lui, il est là, il grandit, il se bat et il nous montre un peu le chemin?
Oui, c'est ce que je disais, on voit l'importance de la... Enfin, j'ai vu l'importance de la santé, de la vie. Et c'est vrai que... Et du coup, maintenant, je savoure voilà, chaque instant avec les autres, avec mes proches ou mes enfants. Enfin, encore souvent, je les regarde, je me dis, mais c'est dingue, hein, ils sont vivants, ils sont en bonne santé. Il y a une vulnérabilité, du coup. Par moment, je me dis, oh, et si j'en perdais un autre, alors que jamais je me serais posé cette question avant. Enfin, je sais que ça peut arriver maintenant. Oui. Mmh. En effet, ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc voilà, donc il y a cette petite angoisse. Et en même temps, il y a de savoir que la souffrance, c'est beaucoup moins peur, que j'ai vu que tout peut se traverser, que je n'ai pas été effondrée. Bon, il y a des moments, je ne cache pas, je pleurais. Après le deuil, j'arrivais plus à dormir. Voilà, je suis pas quand même Wonder Woman, loin de là. Mais voilà, mais voir qu'il y a toujours des ressources, ce genre d'épreuve, ça permet d'expérimenter aussi la solidarité. C'est vrai qu'on a été très entourés, des gens qui nous ont fait des petits plats, qui nous ont gardé les enfants, qui ont organisé des soirées jeux pour qu'on se détende. Vraiment c'est les belles choses là, pourquoi l'épreuve existe, peut-être voilà, pour permettre ces élans d'amour aussi entre nous. Et c'est vrai que du coup, je relativise tout maintenant, même si on est vite repris, hein, mais les notes des enfants, leur devenir, leurs respectives activités ou autres, je me dis, bah, c'est pas grave, quoi, c'est rien. Quoi. Ils sont en bonne santé, ils pourront. Donc c'est vrai que. Ça m'a vraiment changé, remettre les priorités là où elles sont.
Oui.
Et ne plus vouloir anticiper le futur, tout maîtriser. Je sais qu'on ne maîtrise rien, on fait comme on peut. Et il y a quand même les événements se vivent comme ils doivent se vivre, et la grâce et la force sont données, quoi.
Vous évoquez donc ce deuil, le deuil de toute une famille, hein, et je pense à votre mari, je pense bien évidemment aux frères et sœurs de Marylis. Comment est-ce que vous avez expliqué aux enfants comment tout cela a été vécu dans les premiers jours qui ont suivi le départ de Marylis, parce qu'ils ont une importance, à mon avis, une grande importance, en tout cas la manière dont on décide de les vivre, de les aborder, ces premières semaines. Qu'est-ce qui vous vient en tête lorsque vous devez évoquer ce qui a été important dans le début de ce deuil?
Déjà, on a toujours été en vérité, ce que je disais, donc on parlait très facilement avec les enfants, même par rapport, en fait, elle était, donc après son opération du cœur, elle n'a pas bien récupéré, et puis il y a une infection, ça serait ouvert, enfin bon, ça a merdé. Bon, donc du coup, finalement, donc elle est décédée, mais on a eu beaucoup de chance, et qu'elle nous a attendu, la petite chérie, enfin, on lui avait dit à un moment, bon, si, on a tout fait pour toi, pour te sauver, mais tu peux partir si tu... Voilà, si tu n'y arrives plus, ne lutte plus, mais attends-nous. Et donc, c'est super parce que ben, voilà, les infirmières nous ont appelés, on y allait, pareil, on a été portés. Moi, j'ai angoissé à mort, mais comment je vais vivre de ma fille, si elle décède. Et je pense qu'il y a une force de vie, on y va. Et puis, et ça, c'est quelque chose aussi qui m'a profondément marqué, justement par rapport à la mort, que... Ça s'est fait tellement naturellement, paisiblement, qu'on est arrivé, on l'a pris dans nos bras, on lui a parlé, on lui a embrassé, on lui a jeté dans ses petites berceuses, et petit à petit, enfin, s'endormi, c'était très doux. Il y avait une grande paix, et du coup, j'ai plus peur de la mort. Enfin, ça peut être aussi avec de la souffrance, la mort, mais et aujourd'hui, il y a des médicaments, quand même, on lui a lavé un petit peu de morphine et autres, plus d'autres trucs, enfin, j'ai pas trop tout suivi. Les antalgiques et puissants et de nouvelles et tout. Mais c'est vrai que ça a été, même avec nos enfants, ils n'étaient pas là pendant le... Du coup, on l'a vécu que tous les deux avec mon mari, mais après, ils sont venus après. Et c'est vrai que sitôt être confronté à la mort, pour des petits, ou... Mais du coup, ils ont... Je pense qu'ils savent que ça fait partie de la vie et ils ont tenu leur petite sœur morte dans leurs bras. Il y en a une qui a dit, ah bah tiens... Là, c'est un peu bleu, les trucs d'épices. Mais on sentait qu'il n'y avait pas d'effroi. Et je me dis, c'est peut-être une chance, paradoxalement, qu'ils aient vécu la mort, même si c'était violent et dur, de cette façon paisible. Du coup, maintenant, ils savent que ça fait partie de la vie et que c'est doux. Enfin, bon, c'est comme ça qu'on l'a vécu. Et je trouve que c'est un très beau cadeau que Marylis leur a fait.
Vous avez voulu... laisser passer le temps, et on l'entend, on le comprend parfaitement, avant d'avoir l'envie de faire à nouveau un enfant. Marguerite est venue, est arrivée 2 ans après. Ce temps-là, en fait, ces 2 ans, qu'est-ce qu'il représente pour vous, ces 2 années?
Là, c'était de nouveau... là, je vous parle aujourd'hui. Bon, j'ai fait mon deuil et tout, mais j'en étais pas là à cette époque. Il y avait donc, après le départ de Marylis, déjà ce manque viscéral d'enfant, bon, qu'on comprend, hein, charnel et ouais. Même physique. Enfin, j'en ai parlé avec d'autres mamans qui avaient perdu un bébé. On sent le manque dans les bras. On est fait pour porter le bébé, pouponner. C'était vraiment... Ça m'a marqué de sentir cette douleur dans les bras de... Donc voilà, c'est envie d'un bébé, de pouponner. Mais j'avais conscience, voilà, là j'étais en deuil, donc il fallait aussi du temps pour que je sois pleinement prête pour accueillir un nouvel enfant, qui en aucun cas ne serait un enfant de remplacement. Hein. Chaque enfant est unique, différent. Donc je voulais être bien pour accueillir un nouveau. Donc je m'étais fait accompagner par un psychologue, j'avais beaucoup discuté, j'avais avancé mon deuil. Et en même temps, il y avait la blessure hein, viscérale, le syndrome post-traumatique, cette angoisse irrationnelle, enfin, cette angoisse de nouveau, un bug dans la conception, un jeune qui mute, ou je ne sais pas quoi. Et ça, c'était très, très fort pendant toute la grossesse, jusqu'à la fin. Est-ce que mon enfant va être bien, même si après, les échographies étaient rassurantes et tout, mais je sais qu'on ne voit pas tout, malheureusement. Ouais. et que tout n'est pas décelable. Et donc c'est de nouveau ce saut dans la confiance. Et voilà, donc c'était une grossesse douloureuse. Mais pour moi, j'avais besoin, déjà on avait voulu, j'avais nombreuses, 4 enfants, on en avait plus de 3. Et on voulait redonner une chance à la vie, pas rester sur cet échec, en mettre l'expérience douloureuse. Et retrouver la grâce du nouveau-né. Ces petits bébés, ils apportent tellement de joie quand ça se passe bien.
Ouais, ouais. Et au-delà de cette joie, maintenant, que Marguerite est là, que Marie-Lise est toujours là, sans doute dans vos esprits, dans vos vies, parce que le passage de Marie-Lise vous a transformé, puisque on sent que vous êtes ouverte à la maladie, à la souffrance, vous parlez du handicap aussi, des situations que vous fuyiez avant, c'est ce que vous nous disiez.
Ah bah oui, quand je voyais une personne avec handicap, un handicap, je détournais le regard, ou même je vois, j'ai évolué. Enfin, lorsqu'on allait visiter les structures là, qui auraient pu l'accueillir après, j'étais avec une amie avec un enfant handicapé, donc hyper à l'aise, donc il y avait un jeune aveugle, elle arrive, elle rigole avec lui. Oh, moi, je savais pas où me mettre, quoi. Maintenant, je suis plus comme ça.
Vous vous sentez riche aujourd'hui vous voyez ce que je veux dire, cet enfant, bien évidemment, est parti, mais il semble vous avoir laissé à vous, sa maman, mais sans doute au reste de la famille, mais c'est avec vous que j'échange ce soir. Vous semblez toujours évoquer une sorte de richesse qu'elle vous a laissée.
Je me sens beaucoup plus forte de voir que j'ai traversé cette épreuve et que j'en suis où je suis aujourd'hui. Que la souffrance fait moins peur. Je sais qu'il y a eu des moments magnifiques, j'en ai pas parlé, mais donc des moments où on était avec elle, où le moindre petit progrès, où lorsqu'elle était dans le bain, là, elle s'éveillait, elle rigolait, donc des joies très, 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 très fortes, donc, qui sont d'autant plus fortes qu'il y a des moments lourds et difficiles, donc on savoure d'autant plus. Donc aujourd'hui, je me sens plus forte, plus apaisée et plus libre aussi. Voilà, de dire ce que je pense, de faire ce que je pense, d'être comme je suis et d'accepter mes faiblesses aussi. Et que ça n'empêchera pas que je vive, que j'aime, que je sois aimée. Donc vraiment une libération, une transformation très forte.
Merci Vanessa pour ce témoignage. Et puis, embrassez votre jolie famille, les 4 petits qui sont devenus un peu plus grands maintenant. Et encore une fois, mille merci pour avoir partagé votre histoire ce soir. Passez
Avec
une bonne
plaisir.
Soirée. Merci.
Merci à vous.
À bientôt. Au revoir,
Vanessa.
Au revoir,
Olivier.